Bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette session où je vais vous présenter un petit peu de 3D, enfin beaucoup de 3D même. Donc j'espère que vous avez bien déjeuné, que vous êtes bien reposé. Il va y avoir beaucoup de code. L'objectif pour moi, c'est d'écrire en une heure un moteur 3D avec C Sharp et DirectX. Donc je me présente, je m'appelle David Catu, je travaille pour Microsoft France, je suis un collègue de David Rousset. Vous retrouvez mon contact ici, mon mail, n'hésitez pas à me contacter, mon Twitter ainsi que mon blog. Alors moi je brouille les cartes, c'est jamais la même chose. Pour essayer de faire moins simple. L'agenda va être décomposé en fait en trois grandes parties. Une première partie introductive, il va bien falloir que l'on pose ensemble les règles du jeu. Qui a déjà fait de la 3D ici? Oh, ça va. Qui connaît déjà DirectX? Qui connaît bien DirectX? D'accord, bon. Bon, il y en a donc pour vous, ça risque d'être un petit peu long, donc je m'en excuse par avance. L'objectif étant de faire découvrir effectivement DirectX et on va voir ensemble comment on va mettre en place un petit moteur. Et à la fin, en fonction du temps dont on disposera, je parlerai également de l'intégration de fichiers externes dans votre applicatif. Alors, à qui avons-nous affaire? Nous avons affaire à DirectX 11.1, c'est la version qui est sortie pour Windows 8. C'est une évolution mineure de DirectX 11, et quel que soit l'environnement où vous serez, vous ferez du DirectX 11. Ça peut paraître bizarre, mais même sur une petite tablette, vous faites du DirectX 11. DirectX 11 a cette capacité très très intéressante de pouvoir fonctionner même sur du matériel qui n'est pas DirectX 11. On va revenir là-dessus, c'est un point clé important, puisqu'effectivement, par exemple, sur ma tablette ici, sur mon PC, pardon, ici, c'est un PC DirectX 10.1, au niveau matériel. C'est-à-dire que la carte graphique est capable de comprendre des instructions du niveau de DirectX 10.1, mais pourtant, elle fait fonctionner DirectX 11, parce que DirectX 11 sait se mettre à niveau en fait des petites cartes. C'est très important, puisque quand vous allez développer pour Windows 8, si vous visez tout le marché Windows 8, vous devrez aussi bien gérer les gros ordinateurs qui ont des cartes graphiques DirectX 11 de l'enfer, mais la toute petite tablette à 300$ aussi. Et la toute petite tablette à 300$, en ARM, elle aura un matériel capable de comprendre les instructions DirectX 9.1. Donc très très peu puissant, je dirais, versus très puissant. Normalement, j'aurais dû vous parler de C++, puisque DirectX n'est pas WinRT. Quand on vous parle de WinRT, à l'intérieur de WinRT, il n'y a pas C++. De facto, DirectX reste un composant COM standard sur la plateforme Windows 8 standard. Et pour l'appeler, le seul langage capable d'appeler C++ de DirectX, c'est C++. Qui fait déjà du C++ ici? Ah, mais quand même pas mal, finalement. Ben, on va pas faire du C++, on va faire du C Sharp. C'est pour les autres que je dis ça. En fait, il y a possibilité, via un outil tiers qui s'appelle Sharp DX, en fait, de faire du wrapping, c'est-à-dire d'appeler les composants COM depuis C Sharp et d'obtenir un niveau de performance comparable. Vous n'aurez pas le même niveau de performance qu'en C++. On estime à peu près entre 10 et 15% de perte des performances si jamais vous faites du C Sharp versus du C++. Maintenant, pensez également à toute la force du langage C Sharp versus C++. Je ne suis pas là pour dénigrer ni C++ ni encenser C Sharp. Je dis juste que c'est un langage d'un poil plus haut niveau que C++ et que C Sharp, de facto, vous permet d'écrire plus vite, notamment l'interface graphique, notamment des gestions rapides de code. Effectivement, ça peut horrifier ceux qui font du pur C++ de dire ça, mais quand on compare par rapport à un niveau de compétence donné, il est plus facile pour la majorité de développeurs de faire du C Sharp ou du JavaScript d'ailleurs que du C++, tout simplement parce que le langage est un peu plus accessible. Vous pouvez faire pour Windows 8 deux choses en fait avec DirectX. Vous pouvez faire une application pure DirectX où toute l'interface graphique est gérée par DirectX et où vous devrez donc gérer notamment la communication à votre utilisateur, les menus, les boutons, toute l'interface utilisateur. Mais on a également prévu un mode qui est le mode d'intégration XAML et DirectX. En fait, via deux contrôles qui sont les Swap Chain Background Panel et le Surface Image Source, vous allez pouvoir en DirectX faire la partie 3D ou la partie 2D accélérée. Et au-dessus de tout ça, ou injecté dans tout ça, vous allez pouvoir mettre du XAML. Donc en gros, on vous permet d'utiliser le moteur XAML pour l'interface utilisateur et DirectX pour un moteur 3D. Alors à quoi ça peut ressembler? Eh bien, ça ressemble à ça. Ça, c'est du XAML, avec un petit donut en bas. En haut, c'est du XAML. Derrière, c'est de la 3D. OK? Donc, par exemple, ici, quand je vais appuyer sur les boutons, je ne me suis pas embêté à les faire en. Ah oui, parce que c'est David et moi qui avons fait cette application. Donc, c'est pour ça que je dis moi. Ici, en fait, vous avez une application où derrière, il y a bien de DirectX qui tourne, mais tout le dessus, ben, c'est ce que vous a montré tout à l'heure le speaker lors de la keynote. C'est une grid view avec du data binding sur lequel j'ai bindé de l'information. J'ai des événements. Alors, mon ordinateur n'est pas touch, il est souris, mais quand je clique à la souris, j'ai mon framework de navigation, etc., etc. Donc, on a bien les deux opérations ici. Et pour gagner un maximum en performance, on vous laisse le choix en fait entre deux méthodes d'intégration entre DirectX et XAML. Soit le mode d'interaction que je viens de vous montrer là, à savoir le background est rempli par DirectX et par-dessus ça on met du XAML. C'est le mode le plus performant. Et il faudra dans ce cadre-là utiliser une swap chain background panel, qui est le contrôle en fait à mettre en place, celui que j'utiliserai dans mes démos. Mais vous pouvez également faire une plus forte intégration, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser DirectX dans un brush finalement, et ce brush vous en servir comme contenant pour une image, appliquer dessus des renders transform en XAML ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on passera par le surface image source. C'est une image source, comme un bitmap image, que vous allez pouvoir mettre dans un tag image, que vous allez pouvoir utiliser comme un background, que vous allez pouvoir mixer dans votre interface. Et dans ce cas-là, la 3D sera un élément de votre interface XAML. Bien évidemment, ce mode-là est plus coûteux que l'autre, puisqu'il nécessite une parfaite synchronisation entre votre moteur et le moteur XAML. Alors que dans l'autre cas, vous balancez la sauce derrière pour afficher l'image à votre vitesse et XAML est par-dessus. OK? Dans le cadre effectivement de notre jeu, on a fait le choix du swap chain background panel pour essayer d'avoir un maximum de performance. Rappelez-vous que si vous visez le marché complet Windows 8, il faudra que ça fonctionne sur tablette. Et les tablettes, ce n'est pas les machines de Goldorak. Elles ont 1 GHz quand il fait du vent, 512 mégas de mémoire. Et il faut y aller, quoi. Il va falloir se tracter le moteur là-dessus. Alors, si en plus vous voulez rajouter une parfaite intégration avec XAML, bah, c'est du boulot en plus pour elle. Réfléchissez à cela. Petite démonstration quand même de ce que peut donner une application que je n'ai pas. Ah, si elle est là. Complètement intégrée, c'est une application de golf qui utilise aussi notre moteur 3D. Donc là, si je vais visiter un trou, ici, vous voyez, je suis intégré dans l'application. Donc ça, c'est vraiment un surface image source, vous voyez, où il y a bien derrière le background XAML, dans lequel je peux me promener et voir l'approche du club. Là, effectivement, ça marchera même sur ARM, parce que l'approche sur le club n'est pas énorme. Donc petit volume de 3D. La 3D est un élément de l'application, il n'est pas l'élément principal. Surface image source, dans ce cas-là, marche très bien. Alors, comment mettre cela en œuvre? On va voir le code, mais je vous mets rapidement les mots-clés. Pour initialiser DirectX, il faut initialiser à minima ces quatre entrées-là. Une swap chain, un render target, un dev buffer et un viewport. Alors pour vous expliquer à quoi ça sert, je vais vous l'expliquer en le codant. Comme ça, plus de code, moins de slides. Et pour ce faire, on va prendre l'outil que vous préférez, à savoir Visual Studio. OK. En Visual Studio, ce que je vous propose, c'est donc de faire un projet C Sharp, vide, et on va l'appeler, on va le mettre sur mon bureau. Alors, depuis que je suis arrivé en Suisse, mon disque dur SSD va à 2 à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'air helvète qui lui fait pas de bien. Pourtant, c'est un beau pays. Donc, on va l'appeler ma 3D. Donc, c'est le SSD le plus lent de la galaxie. C'est pas un bon signe, à mon avis. Je pense qu'il m'envoie un message, il essaie de communiquer avec moi. Donc, une application XAML standard, on va la lancer juste pour que vous voyez qu'elle fait rien. Ça me permet de faire une petite compilation et de faciliter la vie à IntelliSense en sous-main derrière. Je sais que voilà, hop. Là, je vais donc meubler le temps que ça se lance, voilà. Donc l'application ne fait rien, merveilleux. Cette application ne fait rien et elle le fait plutôt bien, grâce en fait à un contrôle XAML ici tout con, qui est la grille. D'accord? Pour vous prouver qu'on a bien du XAML au-dessus, je vais faire un formidable travail de designer. Voilà. C'est parti. On va mettre un texte et on va mettre coucou la Suisse. D'accord? Tac. Ça, pour que vous le voyez bien, je vais lui mettre une fonte de 60 et je vais le centrer verticalement et horizontalement. Voilà. Donc ça sera notre partie XAML de la démo. Donc on peut le voir ici en haut, dans le designer. Je me retrouve avec ma fenêtre ici. Il y a écrit coucou, la Suisse en plein milieu. Très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rendre le moteur 3D sur le background. OK? Pour ce faire, le contrôle Swapchain Background Panel doit être le contrôle le plus haut dans la hiérarchie. Et le contrôle le plus haut dans la hiérarchie, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est la frame. C'est celle qui contient tout le reste. OK? Donc du coup, ce qu'on va faire à nous, c'est qu'on va dire chouette, mais c'est pas ça en fait qu'on veut. On veut une Swapchain Background Panel qu'on va appeler panel. Et on va dire c'est elle qui sera de plus haut niveau. OK? Donc on va dire ici que le windows.current.content ne sera pas la root frame, mais mon panel. Alors bien sûr, pour ne pas perdre mon contenu, je vais bien sûr dire à mon panel que son enfant, c'est le root frame. Et c'est tout. Si je ne fais que ça, n'initialisant pas de moteur 3D ou quoi que ce soit, voilà. J'ai toujours mon texte ici. OK? Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va initialiser un tout petit moteur 3D. Pour faire cela, nous avons besoin de SharpDX. Donc on va ajouter en référence, que vous pouvez trouver sur sharpdx.org. Je vais ajouter les références de SharpDX dont j'ai besoin. Oui, je suis c'est ça. Tac, 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 tac et tac. Donc il y en a plusieurs. Pour la 2D, la 3D, le son, etc. Donc je prends tout le monde. Et je vais donc pouvoir créer une classe dans mon projet que je vais appeler mon engine. Mon engine, on va un poil, hop là, pardon, on va un poil zoomer, s'il veut bien. Voilà, pour que vous y voyez bien. Et on va créer donc une classe. Cette classe, elle va avoir un constructeur. Et dans ce constructeur, on va prendre un swap chain background panel. OK, panel. On va initialiser ce panel quand? Eh bien, en fait, quand notre panel ici lèvera son événement loaded, d'accord? Eh bien, on dira que l'on appellera via une méthode ici. On va initialiser notre engine. Alors, bon, je ne vais pas forcément faire la super architecture de l'enfer. Donc, mon engine ici, je vais la stocker dans ma classe racine. Et je vais dire que mon engine ici va être construite à partir du panel. Dès que le panel aura été chargé, j'ai son contenu, je peux initialiser mon moteur 3D. Mon moteur 3D a besoin du panel dans lequel se dessiner. Okay? C'est via ce swap background panel qu'on fait la communication. Donc pour ce faire, la première chose, le premier élément, c'est de repérer la carte graphique. La carte graphique avec laquelle vous allez travailler, elle s'appelle device. Alors, donc, on fait du DirectX 11. Ouais, parce que SharpDX fait DirectX 10, 9, 10, etc. Donc là, je fais bien attention à importer le bon namespace qui est DirectX 11. Et ce device, hein, en fait, eh bien, il n'a pas besoin de grand-chose pour s'initialiser. Il a besoin, en fait, de connaître le driver type. Est-ce qu'on va vouloir utiliser l'accélération matérielle ou pas? Alors, évidemment, on va utiliser l'accélération matérielle. Parfois, dans certains cas, on peut volontairement faire de l'accélération software, c'est-à-dire utiliser que le CPU. Par exemple, quand on fait des rendus dans le cloud, ce genre de choses, où on n'a pas de carte graphique accélérée, DirectX est capable de n'utiliser que le CPU. Alors, bien évidemment, ça va beaucoup moins vite. L'objectif ici pour nous n'est pas de faire cela. Donc, driver type, point hardware. Deuxième chose dont il a besoin, c'est des creation flags. Alors, les flags, en fait, il y en a deux qui vont m'intéresser. Le premier d'entre eux, c'est que je le mets en debug. Vous ne ferez évidemment pas ça quand vous livrerez votre version définitive. Mais le fait de le mettre en debug va lui permettre de m'envoyer des petits messages sur la console quand il y a un problème. Unique moyen que vous avez de savoir que ça gaufre. Sinon, il va vous dire 0x428.47.43, point, et vous devez apprendre par cœur tous les HR codes. Donc vous avez les deux options. Bon, je vous conseille d'utiliser le debug. Et je vais également lui dire, et ça c'est toujours amusant, non, je vais revenir à la ligne pour que vous le voyez bien, on se tord de rire quand on fait de la 3D en général, qu'on va faire du BGRA. Il y a un gland, un jour, chez Microsoft, qui a décidé que Windows, il ne ferait pas du RGBA. C'est-à-dire qu'il ne coderait pas ses couleurs en rouge, vert, bleu. Il s'est dit, tiens, si on faisait chier la Terre entière, on va faire du bleu, vert, rouge. C'est comme ça. Tout le monde fait du RGBA, et à un moment donné, quand Windows calcule ses fenêtres, lui, il fait du BGRA. Du coup, il faut dire à la carte 3D, attention, on est chez les idiots, il faut donc se le mettre à l'envers, et il faut demander à ce que la carte graphique, elle pense de se inverser toutes ses bits pour travailler un BGRA. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On peut juste faire ce que je fais, à savoir se servir de n'importe quel moment de la journée pour crier contre ça. Et puis là, on va faire un choix stratégique majeur. Le choix stratégique que je vais faire là, c'est comme DirectX 11 a cette capacité de fonctionner sur n'importe quel type de matériel allant du 9 au 11, il faut que je lui dise attention Coco, limite-moi, ne me permets pas d'utiliser autre chose que ce que, à terme, le matériel que je vise permettra d'utiliser. Parce que tant que je suis en train de coder, je peux mettre en mode DirectX 11 pur, mais le mode DirectX 11 pur nécessite une carte graphique capable de faire du DirectX 11 pur. Rares sont les cartes qui aujourd'hui font ça. Chez les gamers, on en trouve, et bien évidemment. Mais sur la cible, par exemple ici, moi, de mon Windows 8 RT jusqu'à mon Windows 8 high-end, je suis obligé de faire le plus petit de tous, à savoir DirectX 9.1. Voilà. Donc forcément, c'est pas la foire à la saucisse quand on est en DirectX 9.1. C'est-à-dire que toutes les super options de shader de la mort avec les effets de flamme rotatifs, ben on fait pas. On va y aller doucement, et après, ce qu'il faudra évidemment faire quand vous aurez décidé de devenir riche en faisant des jeux vidéo, c'est faire plusieurs versions en fait du moteur. Pour votre exemple, le moteur que je fais tourner derrière là utilise des shaders assez avancés pour la génération de la flotte notamment. Il ne marche pas pour l'instant sur ARM. Je suis en train de me creuser la tête pour porter le moteur vers ARM avec toutes les joies que ça représente quand vous avez mangé du foie gras et qu'on vous dit il faut manger de la pâtée pour chien. Voilà, ben, il faut essayer d'assaisonner le tout en fait. Donc là, on a créer le device. Si ça pète pas là, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que vous avez au moins une carte graphique DirectX 9.1. Et quand vous êtes sous Windows 8, il n'y a pas le choix. Il y a au moins une carte graphique DirectX 9.1. Bon, je vous dis pas de ne pas faire un try-catch, bien sûr. Mais normalement, là, ça passe peinard. Alors, je vous dis ça, mais en fait, on a eu la même problématique. On a fait les barbeaux en se disant, c'est bon, on est sur DirectX, sur Windows 8. Mais les drivers ne le savaient pas qu'ils étaient sur Windows 8. Du coup, ils nous disaient pas, on a eu quand même des crashs au démarrage. Donc, faites attention. Il y a Windows 8 et il y a les drivers de la carte graphique, qui ne sont pas toujours secs, pas toujours dernière version, donc try-catcher quand même un maximum. Une fois que j'ai mon device, en fait, on va faire un peu de com. Je vous rappelle que ce n'est pas du WinRT. Donc on est un peu obligé de faire de com. Et en com, il y avait les interfaces com. C'est-à-dire un objet 3D, un objet com était capable d'avoir plusieurs têtes, en fait. Il avait l'interface I don't know, pour ceux qui ont connu, et d'autres interfaces. Ici, en fait, moi, je vais devoir créer ce que l'on appelle une swap chain. La swap chain, en fait, c'est ce mécanisme qui permet de travailler dans la mémoire de la carte graphique pour générer l'image courante et de faire un swap, c'est-à-dire de dire, tiens, je donne ça à Windows et Windows va l'afficher. Et il peut y avoir plusieurs étapes, parce qu'on n'est pas obligé de travailler sur le buffer courant et l'afficher. On peut travailler sur un buffer N et afficher le N plus 2. Ça laisse un peu de temps. En fait, au système, comme on a des images d'avance, hein, il peut se passer, je sais pas, vous êtes en train de faire un gros calcul à ce moment-là, on peut avoir des dératés. Comme on a plusieurs buffers d'avance, hein, ce qu'on appelle le multi-buffering, eh bien, c'est moins grave. Donc, la swap chain gère le fait de travailler sur un buffer et d'en avoir N d'avance et d'envoyer le buffer courant à la carte graphique pour l'affichage à l'écran. Mais pour faire cette swap chain, il faut que je fasse une swap chain un peu spécifique à DirectX 11.1 pour le coup. Je dois faire une swap chain qu'il sait qu'elle travaille non pas avec l'écran, mais avec un swap chain background panel. OK? Alors, bon, c'est là où ça va un peu piquer, je vous présente mes excuses. Donc, en fait, ici, le device, on va faire ce qu'on appelle une query interface. Je lui dis, OK, et en fait, il faut que tu me donnes ta tête sous la forme de device 2. Device, point, il y a plein de fonctions. D'accord? Mais sur le même objet, alors je sais que c'est un peu dur à comprendre quand on n'a fait que du C+, que du C#, sur le même objet, je peux avoir d'autres choses. Voilà, j'ai la propriété, par exemple, adapteur, que je n'ai pas sur le même objet ici, j'ai pas adapteur. Voyez? C'est la force ou la complexité de com, c'est il y a tout un ensemble de méthodes, mais on ne les voit que par paquet, les paquets étant les interfaces. Bon, à la limite, vous pouvez aussi me croire religieusement. C'est le même objet qui est derrière. Et une fois que j'ai eu ça, je peux récupérer mon adapteur et j'en suis plutôt content. Parce que grâce à cet adapteur, je vais remonter à ce qu'on appelle la factory. La factory, donc c'est sur l'adapteur. L'adapteur, qu'est-ce que c'est, excusez-moi? C'est la sortie de la carte graphique que vous allez utiliser. Une carte graphique pouvait avoir plusieurs sorties. Je vais travailler sur. Là, je ne lui pose pas la question, il m'a donné la version par défaut, celle qui est configurée dans Windows, donc c'est très bien, je la récupère. Et je veux sa factory, qui est donc le parent ici, sous la forme de factory 2. Oui, c'est pas compliqué, hein. Parce qu'il n'y a que la factory qui peut créer les swap chains. Mais c'est un monde à part, hein, le C++, je suis désolé de le dire, mais. Moi, j'aurais mis la méthode sur le device, vous voyez, create swap chain. Mais non, eux ils se sont dit, attends, on va passer par une autre interface, et puis en plus on va mettre un intermédiaire qui est l'adaptateur, et dessus on va faire un getParent. Voilà, en fait, on a fait trois niveaux pour arriver à cette factory, génial. Et la factory, elle a un truc super puissant qui va nous intéresser, c'est qu'elle est capable de faire une swap chain for composition. Ouf. Cette méthode swap chain for composition, c'est celle qui nous permet de faire une swap chain, non pas pour un rendu direct, mais pour un rendu vers le swap chain background panel. Okay. Donc là, il a besoin du device. Mais tiens, voilà le device. Il a besoin d'une description. Alors, il va falloir qu'on lui crée une description. Var description. Alors, et c'est là où on sent bien que c'est vraiment du C++. Swap chain background panel description. Parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet, une structure, en fait. Hein. C++ fonctionne beaucoup par passage de structure. On va faire une grosse structure avec toutes les informations. Et on va lui donner ici, en lui disant, tiens, voilà ta description. Et vers quel output, vers quel écran on veut sortir? Nul étant la version polie de j'en ai rien à faire. Tu fais ce que tu veux. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, alpha mode. On va énumérer tout ce qui va considérer la création, qui va te concerner la création de notre swap chain. Donc, alpha mode, très important. Comment on fait de l'alpha? Puisqu'on est en XAML, n'oublions pas ça. Il y a au-dessus de nous un objet. XAML qui va se composer avec notre background. Comment est-ce qu'on fait la composition? Est-ce qu'on fait l'un sur l'autre? Est-ce qu'on multiplie l'un par l'autre? Est-ce qu'on fait. Bref, là on va lui dire non, ben on s'en fout. Le pratique, on s'en fout. Buffer count, là c'est ce que je vous disais. Combien est-ce qu'on prend de buffer d'avance? 2 étant le minimum. 3 c'est bien. Le triple buffering. Alors attention, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous êtes en 1280, 1980 par 1000. Enfin bref, maximum là. Vous en avez trois en mémoire comme ça. Hein. Ça fait son petit pesant de cacahuète à chaque fois. Mais bon, là, moi j'ai 16 gigas, donc c'est la fête. Flags. Alors on peut lui donner des informations de flags, donc là je vais lui dire non, je m'en fous. Ensuite, le format. Ah, bah, le format, c'est ce qu'on disait, on n'a pas trop le choix. Grâce à nos amis qui ont créé les premières versions de Windows, on est obligé d'être en 32 bits. 8 bits pour le bleu, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le rouge, 8 bits pour la transparence. Donc c'est du B8, G8, R8. A8, normalisé, c'est-à-dire que c'est donc entre 0 et 256, hein, puisqu'on a 8 bits, ça tombe bien. Et là, il n'y a pas le choix, hein, vous ne cherchez pas, vu qu'on travaille vers une fenêtre Windows, il faut forcément du BGRA en 8 bits, une norme. Point. Ce ne serait pas le cas, bien évidemment, si vous faisiez un jeu qui n'était pas injecté dans une application Windows 8 ou qui n'était pas injecté avec du XAML, où là, vous feriez le format que vous voulez, du moment que votre écran comprend les formats que vous lui enverriez. Après le format, on a la hauteur. Ben, la hauteur, ça tombe bien, je l'ai ici. C'est mon panel qui l'a. On va se mettre bien évidemment en plein fer avec la hauteur. OK. Et sample description. Alors, on ne va pas jouer au malin parce qu'on sait qu'on vise du DirectX 9, mais là, on pourrait avoir une version évoluée. Le sample description, c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing. Quand vous regardez ici, alors ça ne va pas forcément être évident sur cet écran, on va voir. L'anti-aliasing, c'est ce qui va permettre d'éviter. Je vais charger une île pour que vous puissiez voir. Voilà. J'essaye de générer de l'aliasing en fait. Voilà. L'aliasing, c'est ceci. Attention, c'est plus ça. Hein. Je sais pas s'il va marcher lui, tiens, d'ailleurs. Non. Ah si. Est-ce que vous le voyez, les effets d'escalier là? Ouais, ça peut dire, on s'en fout un peu en fait. Mais en fait, on s'en fout pas tant que ça joue vraiment sur l'effet visuel. Si j'active l'anti-aliasing, je peux passer en fait dans un mode où il y est. Attention, démonstration live. Voilà. Vous voyez? Il y a beaucoup moins l'effet d'escalier. Parce qu'en fait, pour chaque pixel de couleur, il met une pixel de couleur intermédiaire avec le pixel d'à côté, etc. En fait, il fait un lissage pour vous. Alors bon, ça joue à fond sur la qualité visuelle, ça joue évidemment à fond sur les perfs aussi, hein. Donc là, ce qu'on va dire, c'est, on va pas trop s'emballer pour le moment. Et on va dire, on fait du 1-0. Alors, c'est-à-dire que pour un pixel, je prends un pixel. Point. Voilà. Il n'y a pas d'option. Après, on peut monter pour un pixel, je prends 32 pixels autour, etc. C'est la version Gold Collector, celle-là, mais il faut la machine de Goldorak pour la faire fonctionner. En scaling, alors le scaling, ça veut dire quoi? C'est si jamais la résolution de ma zone de travail n'était pas la même que celle de l'écran. Donc, par exemple, moi j'ai dit, ben, finalement, ma swap chain, elle fait 800 par 800. Est-ce que tu fais un stretch ou est-ce que tu la centres? Ben là, il va automatiquement stretcher, et ça, c'est très pratique parce que c'est obligatoirement accéléré par le matériel depuis très longtemps. Ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste que ça va faire un effet flou parce que ça va zoomer forcément. Il y aura moins de pixels à l'écran. Et contrairement à ce qu'on voit à la télé, quand on zoome une image à l'infini, ça fait des gros pâtés de pixels. On ne peut pas lire les plaques d'immatriculation en faisant des zooms à l'infini. Le swap effect, eh bien, il n'y a pas le choix. C'est flip sequential quand on est en train de travailler avec XAML. Le swap effect, c'est la technique qu'il utilise pour passer le buffer de travail vers l'écran. Flip sequential, c'est-à-dire qu'il prend et il dit maintenant l'écran est là, maintenant l'écran est là, maintenant l'écran est là, maintenant l'écran est là, et il garde les précédentes. On a un mode plus rapide qui est le discard, où il bouge juste les pointeurs, mais XAML ne sait pas l'intégrer ça. Usage. Ben, usage, nous on va vouloir utiliser en fait ici une swap chain pour faire un render target, donc c'est-à-dire la cible de travail. On va dessiner vers ça et ça va sortir à l'écran. Et pour finir, la largeur, je vous l'ai fait dans l'ordre d'arrivée. Avec mon panel point actualate with. Ouf! Et ici, incroyable, on a une swap chain. Alors, on va se la stocker parce qu'on en aura besoin plus tard. Swap chain, ici, swap chain. Ok. Donc, on a récupéré notre carte graphique, préparé le buffer de travail. Okay. Et on a besoin de trois informations supplémentaires à minimum. La première, c'est d'avoir le buffer de travail. Dans notre swap chain, il y a toujours la zone où on dessine, et la swap chain se répercutant toute seule vers l'écran. C'est ce qu'on appelle le back buffer. D'accord? Le back buffer, c'est le nom du buffer, donc de l'image en mémoire sur laquelle on est en train de travailler. D'accord? Eh bien, on a une fonction qui permet de le générer directement pour nous depuis. Depuis la swap chain qui est ici. Et c'est un objet qui est une texture 2D. Ça a été énormément simplifié. Donc ma swap chain, elle est là. Et je veux le buffer de travail 0 qui est toujours le buffer de travail. Ça a été énormément simplifié puisque toutes les ressources mémoire, que ce soit les buffers ou les textures, sont des textures. Avant, il y avait les render target, donc les zones de la swap chain, et les textures 2D. Finalement, c'est la même chose. C'est une image en mémoire. Donc c'est une image en mémoire. Voilà. Donc là, on a un back buffer. J'ai toujours du mal avec les notions qui complexifient, mais là, on n'a pas le choix. Quand je vais travailler avec ma carte graphique, je vais lui dire, tu dessines là. Tu dessines donc dans le back buffer. Je pourrais avoir plusieurs swap chains, plusieurs écrans, plusieurs cartes graphiques. Il faut bien que je lui dise où elle bosse. Je lui dis donc, tu lui dis, tu bosses sur le back buffer. Mais je ne peux pas lui dire, tu bosses sur le back buffer. Donc ça, voilà. Virgule, c'était la version chiante. Parce qu'en fait, en DirectX 11, on a une notion relativement puissante qu'on appelle les vues. Je m'explique. Le back buffer aujourd'hui va être considéré comme une texture dans laquelle je vais dessiner, mais peut totalement par la suite être considéré comme une texture que d'autres applications vont utiliser pour dessiner. Je vais vous faire par l'exemple, ce sera plus simple. Comment est-ce qu'on fait l'eau? Comment est-ce qu'on fait? Pff, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ah oui, parce qu'il y a un ultra, c'est pour ça. Ah oui, un ultra, il ne faut pas non plus s'emballer, quoi. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ceci? Ceci étant le fait de voir. Alors, on va se mettre comme ceci. Je vois le dessous de l'eau, d'accord? Mais ça bouge. Et on dirait de l'eau. Hein, vous avez tous été bluffés, vous pensiez que c'était une vidéo de quelque chose qui était dehors, quoi. Jusqu'à ce jour, c'était de la 3D, bien évidemment. Comment on fait ça en fait? Je suis en fait obligé de faire ça en deux étapes. D'abord, je dessine dans une swap chain le fond de l'eau. Donc la texture qui est sous l'eau. Ok? Ah, mais si, je peux vous le montrer en fait. Parce que j'ai un mode, dit le mode pauvre. Ah non, même pas, ça bouge encore un peu. Bref. Je dessine la texture du fond de l'eau, et c'est tout, que elle. Donc je fais un render target, je dessine un rectangle avec la texture du fond de l'eau. Puis ça devient une texture pour la suite. C'est-à-dire quand je vais vraiment dessiner à l'écran, je vais aller chercher cette texture que j'ai dessinée, qui au préalable était un render target, qui du coup devient une texture 2D. Mais du point de vue de l'ordinateur, de la carte graphique, c'est des bits en mémoire. On a donc introduit avec DirectX 11 la notion de vue qui permet en fait d'avoir une seule ressource et de un coup la considérer comme un render target, le coup d'après comme une texture, le coup d'après comme un buffer dans lequel je vais lire de l'information, mais en fait c'est juste des vues qui donnent un type à de la mémoire. Ok? Donc j'ai pas le choix, il faut une vue. Donc on va créer une autre variable ici qui va donc être un render target view. Render target view. Okay. La render target view, c'est pas dur à créer. Une fois qu'on a le back buffer, on dit ben, tu me fais une render target view sur le back buffer. C'est tout. Et si j'avais pas voulu en faire une render target view. Ah oui, et je te donne le device, bien sûr. Ok, on y est presque. On est à deux étapes du bout. Pour faire de la 3D, il faut la 3D. Pour faire du bon riz, il faut du bon riz. Je m'explique. Je vais le laisser ouvert, ça ira mieux. Quand on fait de la 3D, on dessine à l'écran des pixels 2D, au final, hein, parce que c'est quand même de la 2D. On va refaire tourner le monde pour que vous voyez bien ça. Ici, quand je bouge, si vous voulez, et que on va mettre quelqu'un là. Et un autre ici. Oh, j'adore en fait. Si je fais ça. Vous n'êtes pas surpris de ne pas voir le second monticule passer devant le premier monticule. Vous n'êtes pas surpris. Mais l'ordinateur, lui, en fait, il ne sait pas ça. On a donc besoin, en plus du buffer de travail, d'un second buffer qu'on appelle le buffer de profondeur. C'est-à-dire que quand l'ordinateur en a du bol, il va d'abord écrire ces pixels-là avant cela. Ouais, ça tombe bien, mais on a rarement de la chance en informatique, vous l'aurez constaté. Du coup, s'il n'y avait pas de back buffer, on aurait de temps en temps les pixels du petit monticule derrière qui passent devant, enfin ça ne ressemblerait à rien. Pour garantir la cohérence de profondeur, quand on écrit un pixel à l'écran, on écrit sa profondeur dans un buffer à côté qu'on appelle le buffer de profondeur. Si, quand j'écris ma profondeur, il y a déjà un pixel qui est moins profond, je n'écris pas le buffer de couleur, parce qu'il y a déjà quelqu'un de plus proche sur ce pixel-là. C'est tout. Pas non plus à en faire, mais ça permet de faire des jolis effets. Ou hop, devant, derrière, voilà. Mais la 3D, quoi. De facto, vous avez vu venir, il me faut un buffer de profondeur. Alors, pour faire un buffer de profondeur, on va donc faire un buffer. Voilà, je vais avoir un problème de référence. C'est celui-là que je veux, voilà. Et ce buffer, en fait, il a besoin d'un device et d'une description. D'accord? Ok, vous avez vu venir. Bon, on va faire simple alors, je vais aller vous le chercher parce que c'est un peu chiant à force, sinon. J'avais prévu mon coup. Voilà. Un buffer ici, ça a besoin d'un format. D'accord? Alors, ça aurait pu être plus simple. J'ai 32 bits par pixel de profondeur. À partir de DirectX 10, j'ai le droit d'utiliser les 32 bits pour la profondeur, c'est-à-dire que je vais pouvoir stocker un flottant à l'intérieur qui va donner la distance par rapport à la caméra. Mais avant, c'était pas aussi simple. J'étais obligé de conserver 8 bits pour autre chose. Je ne vais pas vous en parler, c'est ce qu'on appelle les standstill buffers. Laissons de côté ce moment triste de l'histoire. Je n'avais donc pas le choix que de déclarer le format sous la forme d'un D24 UNORM SU8, indiquant qu'il y a 24 bits dont je me sers, et donc j'ai un flux de profondeur avec un flottant de 24 bits à l'intérieur, et 8 bits qui servent à rien. Mais c'est comme ça. Alors ici, on va juste récupérer le back buffer description, parce que je veux effectivement, il faut absolument que la largeur et la hauteur soient la même, hein, puisqu'il faut qu'il y ait le même nombre de pixels pour faire mes comparaisons. et qu'ils aient le même niveau d'anti-aliasing. Logique. Et à partir de ça, je dis cette fois-ci, c'est une texture 2D qui est de type Death Buffer. Je lui donne un type. Et du coup, je vais pouvoir faire une Death View dessus, comme nous avons fait ici. Donc cette fois-ci, c'est une ressource en mémoire, une texture que j'ai créée. Et cette texture, je vais lui donner un typage grâce à une vue. Et cette vue, New Death Stencil View sur Device, virgule Death Buffer. OK. J'ai ma swap chain. Récupérer la carte graphique. Positionner le back buffer de travail et son petit copain, le death buffer, les inséparables. Il faut que je précise une dernière chose, qui est le viewport. Le viewport, en fait, quand vous faites un jeu de voiture, vous avez le rétroviseur. En fait, on dessine une première partie de l'écran, c'est ce que voit la voiture, etc. Et pour le rétroviseur, on change le viewport, on redessine que sur une zone rectangulaire différente. D'accord? Par défaut, il faut lui dire que le viewport, il fait tout l'écran. On dessine dans tout l'écran, mais on pourrait décider de ne dessiner que dans une partie. Okay, donc, le viewport en question, il va aller de 0, 0 jusqu'à with, pardon, with 8. Bien. On les a créés. Il faut les activer. Donc, dans notre device, on a ce qu'on appelle l'immediate context. Alors, je glisse très rapidement sur la notion de contexte. En fait, jusqu'à DirectX 10, tout était immédiat. C'est-à-dire que vous donnez un ordre, ça s'active tout de suite dans la carte graphique. DirectX 11 a ajouté une nouveauté, c'est le multithreading. Donc, on a possibilité d'avoir des contextes d'exécution qui ne sont pas activés. C'est-à-dire qu'on leur donne des ordres dans un thread à côté et on ne les active qu'à un moment donné. Ce qu'on appelle les deferred contexts. Les contextes, ils sont préparés, il y a tout qui est prêt, et puis pouah, on envoie tout d'un coup, et comme ça, il y a plusieurs threads qui, ensemble, vont préparer les images les unes après les autres. Ok. Bon, mais là, c'est quand on a un peu de level en 3D. Pour l'instant, on va rester en immédiat contexte, on donne un ordre, il se trouve que l'ordre est exécuté par la carte graphique tout de suite. Et donc là, on va lui dire à cet immédiat contexte, tiens, voilà ton viewport. Oui. Mais encore faudrait-il que je choisisse le bon endroit. Cette viewport, voilà. Voilà ton viewport. Tant qu'on y est. Ok. Tant qu'on y est, on va également lui dire où sont les différentes sorties. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme target? Tu vas donc dessiner dans cette Death View que l'on a créée au préalable. Non, ça s'appelle pas Death View, si elle s'appelle Death View, pardon. Et tu vas dessiner dans ce render target. Voilà. C'est ça l'ordre qui est important. Comme ça, on peut en avoir plusieurs. Dessiner le fond de l'écran, le fond de la mer dans un render, puis passer sur l'écran principal et puis dessiner le reste en agrégeant. Okay. Ce sont des opérations que l'on fait assez fréquemment. Là, je lui ai donc dit, tu vas dessiner dans cette Death Buffer avec ce render target, la swap chain, elle est ici. On n'a plus qu'à ajouter, vous n'allez pas le croire, une méthode publique que l'on va appeler render. Et qu'est-ce que va faire render? Alors, pour que ça soit visuel, on va demander à l'immediate context. Ah oui, mon device n'est pas public. C'est ennuyeux. Hop là, on va demander au device de faire quelque chose d'incroyable, on va lui dire vide l'écran. Et tu vas utiliser donc le render target, celui-ci, et tu vas mettre à l'intérieur une couleur. Et pour que ça soit bien visuel, je vais vous mettre du rouge. RGBA, parce que là c'est RGBA, hein. Il n'y a que Windows qui fait BGRA. Nous on bossera tout le temps en RGBA. Ok? Et on va dire à la swap chain, bah, ok, fais ton job, fais la présentation, envoie à l'écran. Et rien de particulier. C'est tout. Alors là, si je fais CTRL F5, vous allez être déçu. On va dire ça plante. Qu'est-ce que j'ai référencé qui est pas un MSIL? Je sais pas ce que j'ai pris là. Ouais, j'avais une assemblée de plus de trop là. Parce que SharpDX est MSIL, donc il fonctionnera ARM x86, etc. C'est triste, hein? Coucou la Suisse, c'est bien, mais c'est pas rouge, quoi. Une demi-heure pour faire ça, ouais, ça fait mal. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas appelé render, hein, tu l'avais dit dans ta présentation, il faut penser à appeler le code. Alors, et pour appeler ce code, en fait, c'est pas n'importe quand. On va le faire quand XAML en a besoin. Quand XAML dit, tiens, je me dessine, balance le fond d'écran et je ferai le reste. Et il a une méthode pour faire ça qui s'appelle composition, oh là, composition target.rendering. D'accord? Et là, je vais pouvoir le dire, super, mais puisque tu es en train de faire ton rendering, j'en profite, je fais mon render. XAML va se dessiner, il a une boucle à 60 images par seconde quand il peut. Il tourne, il dit, ah, j'ai besoin de toi, ah, j'ai besoin de toi, ah, j'ai besoin de toi. C'est lui qui va vous cadencer. D'accord? Ça va être triste, hein? C'est parce qu'il y a un piège. Là, on pourrait se dire, putain, ça merde bien ce que tu as fait. Non, il y a composition. Et si vous venez voir ma page ici, la problématique que j'ai, c'est qu'ici, ma grille, elle a un background. Elle recouvre complètement mon render. Ben, je vais juste lui enlever son background. Et c'est noir. Bon, là, c'est pas bon. Alors, faites effet exprès, bien évidemment. Nous allons venir dans les propriétés du projet, venir dans Debug et on va activer le Mixed Debug qui va me permettre, mode de mixte ici, de. Ouais, ok. Alors on l'a refait donc. Hein. En mode mixte, d'avoir les messages de directives qui remontent sur la console. Sinon, Visual Studio n'écouterait que les messages en provenance de manage. Et comme là, c'est directives, c'est donc comme, c'est donc du unmanage, il faut qu'il les écoute. Okay. Et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que j'ai oublié. Donc là, je fais F5. L'application tente de se lancer, plante pas plus que ça, et dans notre output, on n'a pas d'erreur. C'est intéressant. N'y a pas la moindre erreur. S'il y avait une erreur, en fait, il y aurait écrit dans la console DirectX error direct. Donc, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose qui n'est pas une erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais lui repréciser ça à chaque rendu, des fois que je fais bien mon clear sur mon render target view, j'ai bien une dev view ici, j'ai bien ça. Ça me paraît pas mal, ceci dit, quand même. Bon, il y a de fortes chances que j'ai tort. Bonne remarque de monsieur au premier rang. Est-ce que je passe bien ici? Je suis bien, j'efface bien l'écran, je dis bien qu'on fait là et je fais un present. Ouais. Oh punaise. Parce qu'il y a une surcharge qui prend des entiers. Donc 1, c'est très noir en fait. Non. Ah. Ah, je pensais la tenir là. Alors attendez, parce que j'ai prévu le coup, j'ai mes pompes, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, non mais c'est moi, laissez tomber. J'ai oublié une étape essentielle. Et c'est ma faute. Ma swap chain, je l'ai ici, c'est cool, mais je ne l'ai pas liée au background panel. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de quelque chose qui va être le native panel. Parce que là, c'est la partie un peu tarabiscotée du truc, si vous voulez. On va devoir demander à l'objet com, com object, parce que jusqu'alors, vous trouviez ça plutôt simple. Donc on va checker un peu ça. C'est la i swap chain background panel native. Je veux une vision native de l'objet XAML embarqué, d'accord, qui est ici, qui est mon panel. Et quand je fais ça, mais grâce à ça, j'ai une méthode qui apparaît qui s'appelle swap chain. Et je vais dire tiens, c'est ça ta swap chain. Voilà. C'est le rouge. Le plus rapide que vous ayez jamais vu. C'est pas du rouge à la papa fait au CPU, ça, vous voyez. C'est du rouge rempli par de la bonne grosse carte graphique. Ouais, c'est pas mal. Bon, du coup, allez, du coup, je suis tout fier. C'était la première partie. Donc, on a initialisé le moteur 3D, mis en place tout le monde. On va pouvoir faire de la 3D. Parce que pour l'instant, c'est assez plat comme 3D, vous pourriez me rétorquer. Alors, Pour faire un pipeline rendu, en fait, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va pas faire un dauphin aujourd'hui, on va faire une boîte. Je suis désolé, ça va être un peu plus rapide. On a besoin en fait de points et de faces. En fait, la base même de la 3D, c'est le triangle. L'objet surfacique le plus petit possible, c'est le triangle. En dessous, c'est la ligne, et la ligne n'est pas une surface. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour faire de la 3D, on assemble entre eux des objets 2D. On fait plein de petits triangles, comme vous voyez ici sur mon magnifique dauphin. Et en fait, on surface, c'est le cas de le dire, en plus c'est bien à la mode aujourd'hui, on surface un objet 3D. D'accord? On Microsoft surface un objet 3D. Un système de coordonnées, alors oui, bon, ça je vous le dis parce que sinon on peut perdre des années là-dessus, c'est qu'il y en a deux. Il y a main gauche et main droite, c'est-à-dire que vous prenez votre main gauche, vous dites X, Y, Z, ça c'est le premier d'entre eux. Vous prenez votre main droite, vous dites X, Y, Z, c'est le second d'entre eux. Il y en a 50 autres comme ça en fonction de comment vous mettez vos mains. Il se trouve que vous avez le choix avec DirectX, depuis la version au moins 10, de choisir gauche ou droite. C'est vous qui voyez comment vos données vont rentrer. Okay? Du coup, il va falloir comprendre comment fonctionne le pipeline. Et c'est là où il va falloir un petit peu s'accrocher. On va donner en entrée des vertex. D'accord? On va donner en entrée des flottants qui vont définir ce qu'est un point. Du coup, si je viens ici dans mon exemple, on va passer sur cette version-ci tout de suite. Voici comment ça va fonctionner. On va créer des vertices. D'accord? Les vertices, qu'est-ce que c'est? C'est un buffer dans lequel je mets des coordonnées. Je mets des flottants. Je mets une liste de flottants. Moi, je sais que ces coordonnées, c'est X, Y, Z, W, R, G, B, A. Mais c'est parce que c'est moi qui les codé. Toute la difficulté en 3D va être d'avoir quelque part cette soupe de flottants et de faire comprendre à la carte graphique qu'en fait c'est X, Y, Z, W, R, G, B, A. Okay? Et qu'elle fasse quelque chose de tout ça. Alors, si on revient ici dans notre application, après avoir initialisé tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va gérer notre buffer ici. Crac. Donc là, ça c'est un cube. Ça se voit tout de suite. Hein. Je sais que c'est un cube parce qu'en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 paquets. Il y a 6 faces dans un cube. Et qu'à chaque fois, je donne les 6 points puisqu'il y a 2 triangles. D'accord? Mais c'est moi qui l'ai fait. Je sais, j'ai pris un petit papier millimétré, j'ai fait moins 1, etc. Je vous expliquerai comment ne pas faire ça après, bien évidemment. Parce que vous allez crever. Si vous voulez faire un moteur 3D où vous devez tout faire à la main, ça va vous coûter très très cher en main d'œuvre. Donc ça, c'est bien. Et en fait, ce qu'on va en faire avec ça, c'est comme le principe des vues, on fait ce qu'on appelle un vertex binding. New vertex buffer binding. On dit, bah, ok, tiens, voilà ton buffer que j'ai appelé vertice. D'accord? Quel est son stride? Ça, c'est la première explication qu'on donne à la carte graphique. Comment est-ce qu'on passe d'un vertex à un autre? Elle, elle a un tableau de flottants. Eh bien, je vais lui dire, tu as un point tous les n flottants. Un nouveau point commence tous les 4 flottants, ici, en l'occurrence. OK? Donc, tous les 4 flottants, size of float x 4, tu as un nouveau point, et on commence le tableau à 0. La carte graphique, déjà, elle sait à partir de là que dans la fouillasse de points que je viens de lui balancer là, tous les 4 flottants, donc en fait, donc tous les 4 fois 4, 16, tous les 16 bytes, elle a un vertex. Elle le sait déjà. C'est bien. Donc du coup, on va lui donner point immediate context, point input assembler, point set vertex buffer. Tiens, voilà ton vertex buffer. Donc elle sait que quand je vais lui donner l'ordre de dessin, elle va aller chercher les infos là-dedans. Oui, pardon. Comme il peut en avoir plusieurs, je te donne le 0. OK? En plus de cela, il va falloir que, et c'est là où ça a piqué un peu, on programme le GPU, parce que le GPU, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il va recevoir un tableau de flottant, et il ne sait pas quoi en faire. Et là, on rentre dans un nouveau concept qu'on appelle les shaders. Les shaders, c'est du code, comme là, C#, mais pour la carte graphique. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, un shader. Ça ressemble beaucoup à du C. Dans un shader, on doit expliquer quatre choses. À quoi ressemblent les vertex quand ils entrent? Ben, je lui dis, voilà, je te crée une structure que j'appelle, c'est moi qui l'appelle comme je veux, VSIN. Et à l'intérieur, il y aura un flottant 4 qui sera la position. Ça, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Je lui explique ce que c'est. Ça, tu vas le donner à ce qu'on appelle le vertex shader. Le vertex shader, c'est celui qui prend ça, qui prend la fougasse de points, et qui dit, voilà, eh bien, ce point-là, il a telle couleur, il a tel endroit en 2D. Le vertex shader, c'est celui qui prend la version 3D des points que l'on a et qui en génère la version 2D à l'écran. Le vertex shader, c'est celui qui fait toutes les opérations mathématiques de projection d'un espace 3D vers l'écran qui est 2D et qui en plus s'amuse à y rajouter des informations, par exemple la couleur, les textures, etc. Donc mon vertex shader, dans mon cas ici, le voilà. Il prend un objet de classe VSIN en entrée, VSIN étant ici, donc un input dans lequel il n'y a qu'une propriété qui est POS. Et il va me générer un PSIN. Un PSIN qui est donc l'autre structure que j'ai générée ici et que je lui dis ça restera un POS de 4. Sauf que je lui mets un nom qui s'appelle SV pour System Value Position. Le minimum que je puisse faire dans un shader, c'est ça. Je suis obligé de lui dire à quelles coordonnées 2D est chacun des objets au sortir du vertex shader. Pour avoir cette coordonnée 2D, c'est très simple. Je prends la position qui est stockée, les floats moins 1, 1, 0, etc. que j'ai fait passer. Je vais les multiplier par une matrice de projection. C'est la partie magique voodoo du moment. C'est une matrice qui sait faire 3D, 2D. Voilà, c'est l'explication rapide. Et je retourne ça. De facto, la carte graphique, elle va se retourner. Vous voyez ici, par exemple, on va dire que c'est un cube simple, donc il n'y a que 8 points. Elle va se retrouver avec 8 pixels à l'écran. 8 coordonnées 2D. Et elle n'a plus qu'à les allumer. Après, elle appellera un autre shader, qu'on appelle le pixel shader, qui est ici, dont l'objectif, c'est de colorier, avec son petit doigt, pardon, le contenu des faces générées. En fait, les vertex sont 3 par 3, puisque c'est des faces, si je ne meurs pas. Donc ça génère des triangles. Par exemple, là, du jaune, rouge, vert, c'est un premier triangle. Ça, le pixel shader, il va être appelé pour chacun des pixels qui sont à l'intérieur. On appelle ça la rasterisation. La rasterisation, c'est le remplissage, pour obtenir finalement le magnifique résultat que vous avez ici. Donc à minima, la version la plus simple possible, il y aura deux shaders. Le vertex shader, le pixel shader. OK? Le pixel shader, dans notre cas, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne blanc. On peut faire difficilement plus simple, mais il va écrire blanc. Bien évidemment, un pixel shader plus évolué, je vous en montrerai un après, il va retourner plus que ça, il va faire plus que ça. Je suis un peu pris par le temps, donc j'accélère. Du coup, dans mon code, à quoi ça ressemble? Eh bien, en fait, j'ai besoin de charger mon pixel shader ici. Et vous voyez que je ne charge pas mon fichier FX que j'avais, ça serait trop simple. Je charge deux fichiers en dessous qui s'appellent les FXO. La carte graphique ne comprend pas le langage que j'utilise à droite ici. Elle ne comprend, c'est beaucoup plus con qu'un CPU, un GPU. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous savez, c'est un peu le bourrin dans l'équipe de rugby, quoi. Il n'a pas compris les strats, on lui dit cours là-bas, va mettre le ballon au bout, tu tapes s'il y a du monde sur la route. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais le shader, c'est pareil. Le GPU, c'est comme ça. Il y a le CPU, c'est un peu le grand ordonnateur, il a bien compris tout. Et le GPU, il bourre. Mais il bourre très vite. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Donc, pour bourrer, il n'a pas le temps d'analyser du code ou de le compiler ou quoi que ce soit. On est obligé de faire compiler en assembleur les shaders et de préparer le code précompilé pour qu'on a plus qu'à dire au GPU, tiens, mange, allez, cours. Et pour ce faire, c'est un peu artisanal, il y a une ligne de commande qui nous permet d'appeler un objet qui s'appelle le FX Compiler, qui prend des petits paramètres derrière, là, bon, on s'en fout, qui va générer un fichier assembleur pour le shader. OK? Et dans notre code, ce que l'on prend ici, c'est justement la version compilée. Vous voyez, je charge le vertex shader, charge le pixel shader. Je te balance mes coordonnées et tu te dessines à l'écran. Alors, se dessiner à l'écran, on va juste venir sur cette phase-là. C'est assez simple. Ça s'appelle le draw. Je dis draw. Combien il y a de pixels? Il y en a 36. 6 faces, 6 points par face, 36 vertex. Point. OK? Et vous allez voir que si j'exécute ça, je me retrouve, waouh, avec un cube 3D blanc. Alors, on sent pas trop la 3D, du coup, vous allez me dire. Et tout est là, en fait. Pourquoi est-ce qu'il tourne? Parce qu'au préalable, j'ai généré une matrice, vous savez, dans mon shader ici. J'attendais une matrice qui s'appelle World View Projection. Là, je fais un peu de sauce pour le générer. Et ça tourne. Pour la démonstration et bien comprendre, ici, vous voyez que j'ai fait passer position et couleur. Donc, je peux très bien dire dans mon shader, attends, le mec, il n'est pas con, il a fait passer de la couleur en plus. Il t'a balancé une couleur que j'appelle color. D'accord? Je vais donner ça directement à mon pixel shader. Je vais l'appeler color. D'accord? Qu'est-ce que va faire le vertex shader? Il voit la couleur, il donne la couleur. Il n'a rien d'opération à faire dessus. Il dit pour chacun des vertex, je balance la couleur. OK? Donc output.col égale input.color. Là, c'est ce qu'on appelle un pass-through. Je passe à travers le vertex shader et je balance. Et pour finir ici, plutôt que de retourner ceci, je fais input.col. Et mon shader va changer du coup, puisqu'il a une couleur par face maintenant, vu que chacun des vertex vient avec sa propre couleur. Du coup, on sent un peu mieux la 3D déjà. Comment ça marche au final? Et je conclurai là-dessus. Quand on est dans le vrai monde des gens qui font des gros shaders qui piquent, je vous en montrerai un pour le plaisir des yeux. Par exemple, il faut juste que je sache où je suis là. Custom Material, le shader de flotte, le voilà. Je vais juste vous montrer le pixel shader. Voilà. Alors, le pixel shader, là, il prend pas juste une couleur pour l'afficher. Il dit, alors ok, tu m'as donné la normale, qui est donc la coordonnée perpendiculaire à chaque vertex. Je vais en déduire la normale dans l'espace de la texturation pour aller en faire du bump, c'est-à-dire calculer la hauteur de la vague. À partir de ça, je vais en déduire la binormale, qui est la perpendiculaire aux deux autres. À partir de ça, je vais calculer les perturbations en allant chercher dans une texture qui contient les hauteurs d'onde dont j'ai besoin. Je vais faire la réflexion en même temps, aller chercher dans une texture où tu m'as déjà mis le fond. Puis je vais faire la réfraction, aller chercher dans une autre texture où tu m'as mis le ciel. Puis je vais faire un Fresnel, c'est-à-dire un adoucissement de la réflexion en fonction de l'angle à laquelle je regarde l'objet. Puis je vais te donner en plus la couleur, puis le spéculaire qui est la petite tache lumineuse en plein milieu. Je vais mettre un peu de brouillard si tu me l'as demandé et je retourne la couleur. Pourquoi? Je vous montre ça pour vous dire qu'en fait un pixel shader c'est extrêmement puissant. Et ça permet, si vous avez rapidement en tête ce que je viens de vous dire là, de faire exactement l'effet de flotte que vous avez ici. L'effet d'eau que vous voyez tourner là, c'est le shader que je vous ai montré. Pourquoi? Vous voyez que plus je suis bas, moins on voit au fond là-bas la réfraction, on voit de moins en moins à travers et de plus en plus le ciel. Ça, c'est l'effet Fresnel. Et quand je me relève, on voit de plus en plus à travers l'eau et de moins en moins le ciel. Okay? De la même manière, il faut que je cherche ici, voici la trace spéculaire, le reflet du soleil. Okay? Les perturbations, mais vous les voyez, c'est des petites ondulations. Tout ça a été fait par un seul shader qui a été assemblé et appliqué différentes opérations. Mais au final, et j'en conclurai avec cela, le code squelette de cette application-là, de ce moteur-là, c'est le même que celui que je viens de vous montrer, avec des shaders plus complexes. Mais le principe, c'est le même. Je lui balance une sauce de flottant et je lui mets des shaders en face et ça dessine à l'écran. Alors, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout noter. Vous trouverez disponible directement sur le site Tech Days mes slides ainsi que bien sûr ma démonstration complète que vous pourrez regarder et réutiliser. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'incorporation des fichiers externes. Alors je vous donne rendez-vous, en fait c'était fait exprès, sur mon blog. Donc voici le lien. Puisqu'en fait, j'ai un article qui suit juste cette démonstration-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une bouillie, si vous voulez, de flottant, vous allez pouvoir créer votre propre format en fait et importer des objets. Donc je vous invite juste à noter cette URL-là, en fait, je vais vous la donner en cours. Non, celle-là elle est un peu compliquée. Ouais. Je vais y arriver. Je vous invite juste à noter celle-là et c'est le dernier article sur la page. Partant du moteur que je viens de vous donner, il va vous permettre d'injecter des flottants, mais vous n'allez pas les générer, vous allez les charger depuis par exemple 3D Studio Max, qui est un outil de synthèse, génère un format de fichier qui s'appelle le FBX. Je vous explique comment aller lire les petits flottants à l'intérieur pour générer votre petit monde. Chose que j'ai mis en application ici dans Worldmonger, parce qu'en fait dans Worldmonger, le jeu c'est de faire Dieu, vous allez créer des îles et il y a des petits lapins et des renards. Les petits lapins et les renards, c'est pas moi qui les ai dessinés, vous voyez, ça vient de 3D Studio Max. Ce n'est ni plus ni moins que des pixels, comme je vous ai montré, des flottants, sauf qu'ils sont positionnés de manière à faire un lapin. Et je ne suis pas allé me taper le tableau buffer flotte, hein, on est bien d'accord. J'ai lu dans le FBX généré par notre graphiste la structure des triangles pour afficher le lapin. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que de modéliser la ville de New York, un lapin ou une boîte, c'est pareil. La seule différence, c'est que la liste des flottants est plus riche dans un cas que dans l'autre. Avez-vous des questions? J'ai été limpide à mon avis. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation.